de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil?
Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, Cinérama. C'est une demi-heure pour parler de cinéma. On va parler de films qui sont en salle depuis le 11 mars et même de ressorties. Et nous allons entendre deux réalisatrices. Et toi, Sophia, tu as trois films aujourd'hui.
Et oui, Vincent, aujourd'hui, trois films, trois réalisatrices pour moi. Donc je vais vous parler de celui d'Urška Jukić, Little Trouble Girls, du film de Shirin Dabis, Ce qu'il reste de nous, et la ressortie de Santoine Nilois, d'Agnès Varda.
Et tu as pu rencontrer Urška Jukić, donc on écoutera la réalisatrice de Little Trouble Girls. Et toi, Guillaume, deux films.
Oui, le film punk de Maggie Gyllenhaal, The Bride, et le film beaucoup moins punk, Destin croisé, d'Andrew Stanton.
Et puis moi, je vous ferai écouter Momoko Seto, c'est la réalisatrice franco-japonaise du film d'animation très curieux et très, pourquoi pas, déroutant même, Planète. Mais nous commençons avec ce qu'il reste de nous, de 1948 à aujourd'hui, l'histoire de trois générations d'une famille palestinienne marquée par l'exil et la guerre.
Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux?
Cinérama.
Oui, on est comme on est.
Le cinéma a parfois cette capacité rare, transformer ce que l'on croit connaître d'un conflit en une expérience profondément humaine. C'est exactement ce que propose Ce qu'il reste de nous, le film de la réalisatrice et comédienne palestino-américaine Shirin Dabis. Le film traverse plus de 70 ans d'histoire palestinienne, de 1948 à aujourd'hui, et choisit un point de vue plus intime que politique, celui d'une famille. Trois générations se succèdent, chacune portant à sa manière l'héritage d'un traumatisme collectif. On suit notamment Sharif, le patriarche, puis son fils, Salim, et son petit-fils, Nour. Dans une vie faite d'exil, de retours impossibles et de souvenirs transmis malgré eux. La mère qui raconte l'histoire et dont le point de vue structure le récit s'appelle Hanan. À travers ses protagonistes, le film raconte la manière dont un événement fondateur, la Nakba de 1948, continue de résonner dans les existences d'aujourd'hui.
No one ever thought any of this could happen. I'm here to tell you how it started.
Dès le début, le film établit un fil poétique. Le grand-père Sharif apprend à son fils Salim un poème intitulé « Je suis la mer ». Quelques vers résonnent « Je suis la mer, dans mes profondeurs tous les trésors demeurent. Ont-ils demandé aux plongeurs mes perles ?» Et plus loin, « Ne m'oubliez pas avec le passage du temps ». Ce poème revient comme un motif récurrent, presque comme une boucle narrative reliant les générations à travers le temps. La transmission dans le film dépasse les mots. Elle s'exprime aussi de manière bouleversante et inattendue, au-delà de l'existence de chacun. Dans la mort, les parents vont devoir aussi s'assurer que les organes de leur fils ne seront pas attribués à ceux qui continuent de martyriser leur peuple. Cette dimension renforce la force émotionnelle du film et souligne que la mémoire, la culture et l'identité se transmettent par tous les moyens. Shirin Dabis utilise tous ces éléments et plus encore pour insister sur la beauté et la profondeur de la langue arabe et par extension de la culture palestinienne. La poésie devient un espace de mémoire, de culture et de résistance, contrastant avec la violence politique qui ignore cette langue et son héritage. Intimement liée à la terre et à l'identité, la poésie devient un espace de mémoire, de culture et de résistance, contrastant avec la violence politique qui ignore cette langue et son héritage. Elle est intimement liée à la terre et à l'identité. Les orangers de Jaffa, la mer, la lutte deviennent autant de symboles de mémoire et de liens intergénérationnels. Le plus important, selon la cinéaste, c'est bien sûr l'identification émotionnelle. Cela fait une énorme différence pour le public de se mettre à la place d'un Palestinien, de voir ce que les Palestiniens avaient en en 1948 et ce qui leur a été enlevé. Si l'on croit au mythe selon lequel la Palestine était une terre sans peuple pour un peuple sans terre, alors ils n'ont rien perdu. Donc il n'y a rien de plus puissant que de montrer la réalité, ce que les Palestiniens avaient et la façon dont ils ont été dépossédés, contraints de fuir et de finir réfugiés dans des camps.
I wanted to explain what my family went through.
Cette forme de fresque familiale est portée par une distribution marquante. Les trois acteurs masculins principaux sont père et fils dans la vraie vie, ce qui renforce l'authenticité des liens intergénérationnels à l'écran. Les prestations des trois Bakri sont impressionnantes et celles de la réalisatrice, Sherine Dabis, qui joue aussi dans le film, l'est tout autant. Malgré la gravité du sujet, Dabis glisse aussi des moments de joie, d'humour et de tendresse, rappelant que la vie continue de circuler et que la mémoire, nourrie par la poésie, permet de garder vivante l'histoire de ceux qui ont précédé. Avec Ce qu'il reste de nous, Sherine Dabis signe un film de post-mémoire, vraiment bouleversant, à la fois intime et historique, celle d'une Palestine vécue, transmise et jamais oubliée.
Ce qu'il reste de nous est en salle depuis le 11 mars. The Bride revisite le mythe de Frankenstein, une femme assassinée et ramenée à la vie pour devenir la compagne du monstre. Nous en parlons maintenant.
Pardonnez-moi, mais la situation est très délicate.
Cinérama.
Ce film est une catastrophe.
Est-ce notre époque actuelle qui n'a ni queue ni tête, hein, qui ne sait même plus où elle commence et surtout craint de savoir où elle va finir, qui fait que nous voyons ressurgir les monstres classiques de tous les côtés, à commencer par le Prométhée moderne dans le cas de Frankenstein. Alors après le Guillermo del Toro célébré et récompensé l'année dernière, voici sa fiancée The Bride, un projet complètement fou, écrit et réalisé par Maggie Gyllenhaal qui vient hanter les écrans. Alors ici, il n'y a pas de nouvelle adaptation car La fiancée de Frankenstein était une suite originale à l'adaptation du célèbre roman de Mary Shelley, considéré comme la première œuvre littéraire de science-fiction. Et même si on pense au chef-d'œuvre de James Whale de 1935 et à mon avis supérieur à son propre film matriciel de 1931, la comparaison s'arrête là car ça part littéralement dans tous les sens. La fiancée est morte, vive la fiancée et voilà Maggie. The Bride porte haut et fort son point d'exclamation et ce n'est pas pour rien. C'est à la fois une injonction à la débauche, la folie et aussi à l'individualisme et à l'émancipation de sa créature débarrassée de Frankenstein ayant cours depuis presque 100 ans. On n'est plus chez la Universal mais chez la Warner. Et le studio qui vit à l'heure actuelle ses derniers instants avant son rachat aussi historique que problématique, livre probablement sans le vouloir le plus beau requiem qui soit en plongeant dans le genre qui a fait sa renommée. The Bride transporte les personnages de Shelley dans l'Amérique des gangsters des années 30, celle du Scarface d'Howard Hawks, du Little César de Mervyn Leroy, et des films avec James Cagney comme L'Enfer est à lui, L'ennemi public numéro 1 ou Les anges aux figures sales. Une figure sale, c'est d'ailleurs comme ça qu'on nommera cette nouvelle fiancée, figure féminine trouble qui revient d'entre les morts pour combler la solitude d'un monstre, mais qui va devenir une figure de lutte féminine symbolique et proactive par elle-même au-delà de son couple.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Tu as eu un accident.
Un accident? Ah oui.
On t'a déterré. Et on t'a ramené à la vie.
Pourquoi tu t'intéresserais à une morte?
Je suis pareil. Je suis né d'entre les morts. Je suis un monstre.
Ouais, moi aussi.
The Bride part dans tous les sens, va souvent nulle part, mais brille par ce qu'il réussit. Alors à savoir, en premier lieu, un réjouissant cri de guerre féministe qui déboîte les conventions et ose, par son grotesque grandiose, éclater un univers d'hommes suffisants et faibles par des femmes qui prennent le pouvoir et qui sont toutes les garantes des postes et moments clés du film. C'est par cet excès que ce qui aurait pu n'être qu'un trac devient totalement fédérateur dans son délire. C'est ensuite une œuvre qui a parfaitement compris la nature du monstre, de l'exclu, de celui qui fait peur et qui, grâce à un ouragan anarchique, va éclater la société policière. lycée dans tous les sens du terme est bien pensante et donc bien hypocrite. Si le récit, hein, comme ses anti-héros, ne sait pas toujours où il va, la mise en scène de Gyllenhaal assure un rythme maintenu et une audace qui permet de ne pas lâcher prise. On sait parfois littéralement pas, hein, si on est dans un rêve ou non, les monstres se décuplant également sur les multiples écrans de cinéma que l'on voit. Car oui, The Bride, hein, utilise son écran pour rappeler que les monstres, c'est comme le cinéma, c'est la vie en grand format.
Ce monde est un trou noir.
Les corrompus ont fait leur temps. La vie est ici et ce sont les monstres qui vous la portent.
Oui, oui.
Ne tirez pas, je suis désolé.
T'es désolé pourquoi ? T'as fait quelque chose de mal ? Et tu pensais pouvoir t'en tirer ?
La sortie tardive du film n'est pas un secret, hein. The Bride a été un enfer de production. Le fait de repousser le film au premier trimestre 2026 est bien sûr l'assurance, hein, de finir la production en bonne et due forme, d'être sûr que le produit fini soit exploitable selon l'envie du studio, mais aussi de réitérer le gros carton public de Sinners l'année dernière. Le film de vampires et de blues, hein, de Ryan Coogler était lui aussi un film fantastique, d'époque, au sujet casse-gueule et au budget important pour la Warner, et avait su créer la surprise autant en record de fréquentation malgré sa violence qu'en renommée puisqu'il est à ce jour le film le plus nominé aux Oscars qui sont sur le point de se dérouler. Il en est actuellement tout autre pour The Bride qui est déjà un énorme échec et c'est bien dommage car on sait que la vision initiale de Gyllenhaal a déjà subi des remontages et des coupes. Alors quelque part son œuvre ressemble à ses monstres et arrive malgré tout à briller. Il est fort à parier que c'est ce que vous verrez de plus impoli et donc excitant des studios cette année.
Eh bien ce film, The Bride, est en salle depuis le 11 mars. Quatre graines de pissenlit qui quittent la Terre pour l'espace à la recherche d'une nouvelle planète où s'installer. Nous parlons de planète.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
À l'heure où le cinéma d'animation est construit à grand renfort de 3D, la franco-japonaise Momoko Seto livre un étonnant film d'animation, Planète. Planète au pluriel. Un film qui a fait la clôture de la semaine de la critique au Festival de Cannes 2025. Le pitch ? Alors il a de quoi surprendre, hein, car nous suivons quatre graines de pissenlit, ou plus précisément des akènes, ce que l'on voit s'envoler avec des poils blancs, hein, qui traversent l'espace pour atterrir sur une nouvelle planète. Leur objectif n'est pas le tourisme, évidemment, hein, mais de se planter, ce sont des graines. C'est donc à une aventure que nous convie Momoko Seto, qui mêle à ses personnages, alors réalisés en 3D, ce sont les seules images 3D, quasiment les seules images 3D, elle mêle donc des animaux et plantes bien réelles, grâce à un patient travail de prise de vue à travers différents pays, la réalisatrice a pu constituer une histoire qui, le dit-elle, peut faire penser à Indiana Jones, mais à hauteur de graines de pissenlit. C'est un film sans paroles, mais parsemé de sons qui augmentent la signification de l'image. Planète est une belle réussite, hein, qui, avec quelques éléments, nous plonge dans un autre monde. Alors, on a eu le plaisir de rencontrer la réalisatrice que nous entendons tout de suite, Momoko Seto.
L'idée, c'était de faire un film d'aventure avec des végétaux, sans humains. Donc, les végétaux, une fois plantés, c'est un peu compliqué de leur faire vivre des aventures. Donc, j'avais pris des graines, qui est la forme la plus active de végétal. Et toutes les graines vivent des aventures incroyables pour pouvoir s'implanter.
Momoko Seto, ce qu'il y a de remarquable dans Planète, hein, c'est que votre film d'animation repose sur des images essentiellement en prise de vue réelle.
Alors, c'est un film d'animation, mais en même temps, beaucoup de prise de vue réelle. La part d'animation est essentiellement sur les personnages principaux, donc les graines de pissenlit qui sont modélisées en 3D et animées dans les logiciels de 3D. Par contre, tout le reste, donc les vivants, les maquettes, les animaux, les planctons, tout ça, c'est filmé en réel. Donc l'idée, c'était vraiment une odyssée dans la nature qu'on connaît, les limaces qu'on connaît, les lucioles qu'on connaît, les mousses qu'on connaît, mais en étant tout petit, comme des graines de pissenlit, et s'aventurer dans ces écosystèmes pour les voir autrement. Et le fait de les voir autrement, ça nous donne comme une sorte de perspective pour une histoire de science-fiction. C'est-à-dire qu'en les voyant, les limaces grosses, comme un cheval, tout d'un coup, elle devient des personnages comme Jabba the Hutt dans Star Wars ou d'autres personnages comme ça, imaginaires. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est du réel. Donc, le film me frôle toujours dans ce seuil de ce qu'on connaît, mais ce qui est différent, ce qui est déformé et ce qui nous semble du coup merveilleux ou en tout cas autre que ce qu'on connaît habituellement. Le pitch, c'était Indiana Jones végétal, donc il fallait qu'il se passe beaucoup de choses. Des courses-poursuites, pas de voiture, mais de têtards. Des titans énormes qui surgissent dans la forêt, pas des Godzilla, mais une montre religieuse. Des attaques, contaminations dignes de Last of Us avec des cordyceps, avec des blobs. Donc voilà, on avait toutes sortes de références. Une bombe atomique qu'on a vue comme référence, Terminator 2, quand le monde est détruit. Enfin voilà, on avait toutes sortes de références, des films d'aventure, de science-fiction. Voilà, qu'on voulait apporter dans le film, puisque c'est ça qui étonne, c'est-à-dire qu'on n'est ni en train de faire un documentaire botaniste, ni en train de faire un documentaire animalier, ni en train de faire que des belles images à l'art contemporain, mais on est en train de faire un film d'aventure avec des graines en filmant du vivant. Donc c'était vraiment tout ça notre challenge.
Momoko Seto, dans Planète, il a fallu inventer un environnement sonore car il n'y a pas de langage pour ces graines de pissenlit.
Alors, toute la partie sonore a été travaillée par Quentin Sirjac, compositeur de musique, et Nicolas Becker, compositeur de musique et sound designer. Ils ont réfléchi pendant très longtemps, pendant plus de 2 ans, comment sonnent les akènes de pissenlit. Voilà, donc Nicolas qui a plus d'expérience sur le bruitage. Nicolas Becker a amené le son, notamment des ondes Martenot, qui est un instrument de musique analogique où on touche des touches un peu qui ressemblent à des pianos et puis on module avec une strie et qui fait un son comme ouh, 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 ouh. Voilà. Donc il a posé ce son sur chaque personnage comme s'il parlait. Et en plus de ça, Nicolas a apporté du souffle. Donc les personnages sont accompagnés du souffle que Nicolas lui-même a enregistré, qui fait comme ça. Donc c'est à la fois un souffle qui ressemble au vent, comme si ces graines de pissenlit étaient emportées par le vent, mais en même temps comme si leur corps émettait ce son-là. Et en même temps, c'est un son qu'on souffle souvent comme ça, pour animer des choses inanimées, que notamment quand on est enfant et qu'on joue avec un avion papier, on fait souvent ce son-là, comme ça. Donc il y a une sorte de métaconscience, je pense, que l'audience peut aussi s'identifier dans ce son-là qui est très subtil.
C'était Momoko Seto, la réalisatrice franco-japonaise du film Planète, un petit film d'animation vraiment très curieux et très inventif, qui est en salle depuis le 11 mars. 3 récits situés à différentes époques s'entremêlent, de la préhistoire à un voyage spatial vers une autre étoile. Nous parlons de Destin croisé de Andrew Stanton.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre. Hein.
Le retour d'Andrew Stanton au long-métrage de prise de vue réelle avait tout pour nous réjouir. Alors on parle de l'un des piliers historiques du Pixar de la grandeur, puisqu'il a co-réalisé Mille et une pattes, Le monde de Nemo, a fait partie des scénaristes d'ailleurs Toy Story 1, 2 et 3, et qu'il est le réalisateur de Wall-E. Bref, un petit paquet de chefs-d'œuvre de l'animation. Alors son passage au cinéma live s'est retrouvé être bien moins heureux, car il est le papa de John Carter, la pharaonique adaptation des écrits d'Edgar Rice Burroughs par Disney, qui a connu un bide historique et injustifié en 2012. Après un passage par les séries télé et en attendant le rouleau compresseur Toy Story 5 qui malheureusement est symptomatique de la chute d'inspiration et artistique totale de Pixar, le voilà qui nous livre un destin croisé aussi étonnant que complètement inattendu car... Eh bien, on a déjà vu de mémoire récente ce film ayant bien plus réussi. Alors ce qui ne veut pas dire qu'il est totalement à jeter.
La vie semble si... improbable.
Et un jour, en prenant un petit peu de recul, tout prend un sens. On va rester entre nous, mon vieux. Mes recherches sont fondamentales. On pourrait savoir d'où on vient. On pourrait vivre plus longtemps.
Derrière la traduction française paresseuse en destin croisé se cache in a blink of an eye, soit dans un battement de sourcil. C'est littéralement la note d'intention inaugurale du film qui nous lit dès ses premières minutes l'infiniment grand et l'infiniment petit, histoire de bien nous faire comprendre que l'histoire qui va suivre va relativiser le temps pour tous ses protagonistes. Alors on suit trois temporalités, l'arrivée des Homo sapiens, un couple de chercheurs actuels et une scientifique en voyage spatial chargée de repeupler la galaxie d'êtres humains. Trois histoires, un seul écho, celui de l'humanité qui perdure, dont l'histoire globale est lié par des actions et des choix qui ont fait le monde et qui feront le monde de demain. L'être humain, cette graine de poussière dans l'immensité de l'univers, est donc un récit ininterrompu, extrêmement fragile et dont les choix vont conditionner la survie de l'espèce. Alors dit comme ça, ça semble beau et palpitant, sauf qu'on a vu ça réalisé de main de maître par Tom Tweaker et les sœurs Wachowski avec Cloud Atlas il y a un peu plus de 10 ans. Et on a aussi vu ça dans The Tree of Life de Terrence Malick. Et encore plus récemment dans le bide injustifié du dernier chef-d'œuvre de Robert Zemeckis, Here, en 2024. Alors de manière bien plus fine et avec une mise en scène magistrale, le papa de Retour à le futur nous faisait pleurer en nous dévoilant ce que sont les aléas et les broutilles du quotidien qui faisaient les grandes histoires, inscrivant ici et là des moments d'éternité. Cet aspect précieux, Stanton peine à le rendre palpable avec une mise en scène horriblement statique, une photographie paresseuse et un récit qui n'arrive à accrocher qu'en dernière partie, quand tout devient enfin concret. Soit l'inverse des œuvres précitées et alors qu'elles durent jusqu'à 3 heures pour l'incroyable, on le dit pas assez, Cloud Atlas. L'empreinte relative du temps, on peut dire que Stanton n'en marquera pas de son art avec Destin Croisé, achevant une évolution de carrière décidément bien frustrante.
Donc Destin Croisé n'est pas sur les écrans, c'est un film qui passe directement sur la plateforme Disney+. Une adolescente introvertie a une relation avec une camarade qui bouleverse l'équilibre. Nous parlons de Little Trouble Girls.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Si le cinéma slovène ne fait pas beaucoup de bruit sur le territoire français, la voix cinématographique d'une réalisatrice se fait pourtant entendre avec éclat. Celle de Urška Jukić, notamment par un de ses courts-métrages, La vie sexuelle de mamie, César, du meilleur cours d'animation en 2023. Avec Little Trouble Girls, elle signe son premier long-métrage de fiction présenté à la Berlinale 2025 et récompensé par le prix de la critique internationale. Le film suit Lucia, une jeune fille de 16 ans, timide et introvertie, encouragée par sa mère à rejoindre la chorale de son lycée catholique, elle y rencontre Anna Maria, une camarade charismatique et un peu manipulatrice qui va bouleverser sa perception de l'amitié et du désir. Lorsqu'un week-end de répétition les mène au nord de l'Italie, le récit devient une véritable odyssée corporelle et spirituelle. Franchir le Ponte del Diavolo, littéralement le pont du diable, se révèle être une traversée symbolique, métaphore du seuil franchi entre un monde encore réglé par la rigueur et la pudeur et un ailleurs où les sensations et les désirs se révèlent.
Lucia.
Urška Jukić traite les espaces comme des forces, le monastère en travaux avec ses ouvriers torse nu, où l'ordre religieux se fissure pour laisser filtrer l'intime. Les statues religieuses omniprésentes et parfois brisées, comme cette Vierge Marie cassée qui reçoit un langoureux baiser, tout participe à symboliser le poids de la foi et de la culpabilité qui se mêlent aux premiers émois et aux questionnements de Lucia. Au cœur de ce récit sensible, le film explore des thèmes universels, l'éveil du désir, la construction identitaire, la contradiction entre croyances et pulsions, ainsi que la tension entre foi et liberté. Little Trouble Girls n'est pas un simple récit d'apprentissage, c'est une géographie intime où le territoire, les corps et les symboles se répondent pour peindre l'émergence d'une conscience. Le tout porté par les voix de ces jeunes femmes, dont la chorale crée une bande-son immersive, particulièrement sensorielle, avant de clore le film sur le morceau plus rock de Sonic Youth et Kim Deal, Little Trouble Girl. Nous écoutons Urška Jukić nous parler de son film.
Toutes nos excuses, parce que le son de cette interview n'est pas très bon.
It's one of the important.
C'est un des thèmes les plus importants de mon film, toute la question de la culpabilité et de la honte, qui est finalement un mécanisme oppressif qui a été construit par le patriarcat. Et avant les anciens temps, c'est des cultures qui justement n'avaient pas ces notions-là. Ce sont des notions qui ont été construites et c'est très important d'en parler, de pouvoir en discuter.
For me,
Personnellement, c'est quelque chose en grandissant que j'ai beaucoup ressenti. Et parfois, mon corps, justement, me disait quelque chose d'autre. Essayer de me dire ce qui était bon ou ce qui n'était pas bon. Je pense que c'est aussi un terme universel. Si on regarde sur les 5000 ans d'histoire, le patriarcat a beaucoup oppressé ses femmes. C'est un concept qui, justement, se déconstruit depuis peu de temps. Si on regarde bien, il y a finalement que 70 ans que des femmes dans les pays occidentaux qui commencent à être entendues. Et ce sont une petite partie de la population féminine. Donc pour moi, c'est très important d'en parler pour justement éviter ce contrôle qui peut être sur les femmes ou justement sur d'autres ethnicités. Donc c'est très important pour l'humanité en général.
Dai si ti menstruo, domina Clara. Per trinesti. Capati? Yes, signora.
But also, not just for me, I think it's very universal because of this.
Je pense que c'est aussi un thème universel. Si on regarde sur les 5000 ans d'histoire, le patriarcat a beaucoup oppressé ses femmes. C'est un concept qui, justement, se déconstruit depuis peu de temps. Si on regarde bien, il y a finalement que 70 ans que des femmes dans les pays occidentaux qui commencent à être entendues. Une petite partie de la population féminine. Donc pour moi, c'est très important d'en parler pour justement éviter ce contrôle qui peut être sur les femmes ou justement sur d'autres ethnicités. C'est très important pour l'humanité en général.
C'était Urszka Dzukic pour son film Little Trouble Girls.
Ce film est en salle depuis le 11 mars. Les dernières semaines de la vie de Mona, une vagabonde qui a choisi de vivre sans toit ni loi. Nous parlons évidemment de la reprise du chef-d'œuvre d'Agnès Varda.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinerama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
La ressortie de Sans toit ni loi tombe presque à pic ce 11 mars, quelques jours après la Journée internationale des droits des femmes. Et il ressort donc ce film en version restaurée, 40 ans après avoir obtenu le Lion d'Or à la Mostra de Venise en 85. 1985, c'est justement l'année où Coluche lançait l'appel qui donnera naissance au Resto du Cœur. Le film révélait déjà une France frappée par la précarité. Sans toit ni loi commence par une image glaçante. Le corps d'une jeune femme est retrouvé, morte de froid dans un fossé. Un fait divers avec un H. Cette jeune femme s'appelle Mona. Alors, pendant tout le film, Varda remonte les derniers jours de son errance. Mona marche, fuit, disparaît. Une sans domicile fixe à une époque où on ne les appelait pas encore comme ça. Une vagabonde, libre, une femme qui pue, qui jure, qui ne dit jamais merci. Et c'est précisément ce qui fait d'elle une héroïne radicale, hors des représentations normatives genrées. Interprétée par une toute jeune Sandrine Bonner, hein, qui remporta le César de la meilleure actrice pour ce rôle, à peine 18 ans, Mona traverse les paysages d'hiver comme une énigme. Pour raconter cette trajectoire, hein, Varda utilise une forme très particulière. 12 grands travelling latéraux accompagnant sa marche, comme une série musicale, presque une partition visuelle. À chaque fois, Mona traverse le cadre, puis s'échappe hors champ. Et travelling, gauche, droite, droite, gauche. Mais le film est aussi une enquête morcelée qui rappelle la construction du Citizen Kane d'Orson Welles. Hein. Plusieurs témoignages de celles et ceux qui l'ont croisé, plusieurs regards, mais jamais une vérité définitive sur Mona. Chaque personnage donne sa version, comme si la cinéaste, grande glaneuse, récoltait des fragments de vérité. Ce mélange de fiction et d'approche documentaire est typique du cinéma de Varda, qui préfère collecter des regards, aller à la rencontre d'eux, plutôt que de livrer une explication définitive ou un grand discours social.
Faut que tu partes, mon copain veut pas que tu restes.
Qui, celui de la photo?
Tiens, prends 100 balles et casse-toi.
Oh, 100 balles pour me tirer. C'est dommage, la vieille m'avait à la bonne. Mais la bonne veut pas.
Allez, allez, allez.
La bonne n'a pas la bonne. C'est comme à l'hôtel, fini à midi. Je vais pas te piquer ton boulot de boniche. T'inquiète pas.
Le sujet résonne toujours, alors que le nombre de personnes sans domicile fixe a explosé en France. 350 000 personnes à la rue à ce jour, selon les estimations d'actualité. Revoir Sans toit ni loi aujourd'hui, c'est se connecter à cette réalité et aussi redécouvrir un portrait de femme rare au cinéma, libre, abrasive, impossible à récupérer, une femme qui marchait seule contre le monde. Et 40 ans plus tard, sa silhouette continue de traverser le cinéma.
Sans toit ni loi, alors, est disponible évidemment sur les plateformes et pourquoi pas en DVD, Blu-ray, mais aussi, eh bien, à nouveau sur grand écran.
Terminé pour aujourd'hui.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
Ça ne servirait à rien de le nier.
On se retrouve la semaine prochaine. Tu auras 3 films.
Oui, je vous parlerai de David, de Orphelin et peut-être du Sifflet.
Moi, je vous parlerai de La Danse des Renards de Valérie Carnoy.
Puis, on parlera du dernier film avec Brian Gosling, projet Dernière Chance, notamment. À la semaine prochaine.